Sud Radio, 7h-10h, le grand matin Sud Radio. Laurence Garcia.
Et on va parler des audiences et les médias de Rémi Pernelet. Bonjour Rémi.
Bonjour Laurence, bonjour à tous.
Ça va bien ce matin?
Oui, beaucoup de monde encore devant la télévision, notamment un carton pour TF1. Oui. 7 863 000 téléspectateurs pour Les Visiteurs, avec Christian Clavier et Jean Reno. C'est 1 400 000 de plus que la semaine dernière, et puis 600 000 téléspectateurs de plus que la précédente diffusion en prime time sur TF1. C'est en avril 2016. Vous voyez, après la 7e compagnie, toutes les semaines précédentes sur TF1, c'est la confirmation du succès des comédies populaires en ce moment. Ouais. TF1 a largement leader devant M6, 3 455 000 téléspectateurs pour la très bonne série Why Women Kill, c'est toujours un bon score. Et puis là, je vais vous signaler un très bon score pour la série d'Arte, je vous en parlais hier, Dérapage avec Eric Cantona, 1 976 000 téléspectateurs pour le premier épisode, encore près d'1 900 000 pour la fin de la série un peu avant minuit. Arte hier était la 4e chaîne devant France 3. Vous voyez, puis le film de l'après-midi qui marche toujours bien, 2 431 000 téléspectateurs, c'était Jacques Croquant hier.
Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Vous avez des conseils pour les films de ce soir en famille ou de cet après-midi?
Oui, c'est ça, et puis ce week-end. Donc ce soir sur TF1, toujours Koh-Lanta en version raccourcie après le départ de Sam la semaine dernière, une polémique a éclaté, ça on en parlera tout à l'heure à 10h30 avec Valérie Expert. Sur France 2, la très bonne série française Candice Renoir qui dépasse les 6,5 millions de téléspectateurs depuis son retour. Alors demain, samedi soir, vous savez que TF1 a diffusé toutes les émissions enregistrées de The Voice, donc ils ne peuvent plus diffuser les demi-finales et finales en direct et en public. Ouais. Et ils rediffusent donc le concert des Enfoirés 2017. C'est un très beau spectacle. On peut toujours le re-regarder. Un inédit sur France 3, c'est assez rare en ce moment pour le signaler. Meurtre en Corrèze, un bon téléfilm policier avec Ariel Mallet, Joyce Jonathan. Et puis, je vous signale, ce soir sur C8, Touchez pas au Grisby. Formidable film de Jacques Becker, et Lino Ventura, un monument du polar français, j'en arrive absolument.
Regardez ça, Jean-Marie.
Pour les amateurs de foot et des grandes heures de Saint-Etienne, moi je signale dimanche la chaîne parlementaire rediffuse en hommage à Robert Herbin, dimanche à 21h, le quart de finale retour de la Ligue des Champions 1976 entre Saint-Etienne et le club de Kiev. Mais écoutez, c'est le match mythique de l'Odyssée des Verts.
Absolument, un exploit.
Sur la chaîne parlementaire avec beaucoup de témoignages. C'est un peu surprenant, un match de foot sur la chaîne parlementaire. Vous voyez, je pense qu'il fallait vous signaler.
Ce monde est fou. C'est surréaliste. Et au programme, Rémi Pernelet, De l'émission de Valérie Expert tout à l'heure de 10h à midi.
À 10h chez Valérie Expert, Baptiste Giaviconi, le mannequin qui avait fini 3e de la 2e édition de Danse avec les Stars en 2011. Il a aussi été un proche de Karl Lagerfeld et il a sorti un livre Karl et moi, il va en parler avec Valérie. À 10h30, on donnera les infos médias, tous les bouleversements dans les chaînes liés au coronavirus et puis on parlera livre, Valérie parlera livre ensuite avec Gérard Collard.
Voilà, sacré programme. Merci beaucoup mon cher Rémi.
Merci
Rémi. À très bientôt. Allez, c'est l'heure de retrouver à 9h36 les témoins experts Sud Radio. Comment retrouver le moral? Comment retrouver le bon sommeil? Vous dormez bien vous Jean-Marie?
Écoutez, je dors, oui, mais alors c'est assez décalé. Vous savez, le télétravail, le problème, c'est que vous ne faites plus trop la différence.
Eh bien justement, comment trouver des vrais horaires en ce jour J-10 avant le déconfinement? On en parle. Bonjour Benjamin Lubzinski.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin.
Bonjour.
Vous êtes psychothérapeute, très suivi d'ailleurs sur votre chaîne YouTube, auteur du livre Bien dormir, ça s'apprend, c'est une éducation aux éditions du Rocher. Alors justement, on en parlait avec Jean-Marie en cette période anxiogène. On s'est tous décalés, on dort pas forcément bien, on stresse, on angoisse, on a perdu nos rythmes. Quel conseil très concret vous pouvez nous donner pour retrouver ces rythmes en ce jour J-10 avant le déconfinement? Je pense que ça peut intéresser nos auditeurs.
Le premier conseil, c'est essayer de se coucher tous les jours à la même heure. C'est vraiment primordial, parce que sinon le sommeil est de moins bonne qualité et on se jet lag en quelque sorte. Déjà, je ne sais pas si vous savez, mais si le week-end on fait une grasse matinée, imaginons qu'on se couche une heure plus tard, qu'on se réveille trois heures plus tard, eh bien week-end, c'est comme si on était à Dubaï et puis ensuite on essaie de revenir à Paris la semaine suivante.
Ça tombe bien, on ne peut plus prendre d'avion, donc la limite...
Non, on peut avoir le jet lag sans l'avion, c'est formidable.
C'est ça.
Et vous aurez les mêmes effets. Alors, c'est important de se coucher à la même heure. Ce qui est aussi très important, c'est le matin, d'essayer de s'exposer à la lumière, parce qu'en fait, ça inhibe la sécrétion de mélatonine. La mélatonine, c'est ce qui permet de s'endormir. Et donc, en s'exposant à la lumière, le soir, on s'endort plus facilement, plus rapidement. Et puis ensuite, il faut essayer d'avoir au moins 20 minutes d'activité physique, 30 minutes, c'est parfait. Mmh. C'est difficile chez soi, mais on peut faire du yoga, on peut faire de la gym, on peut marcher chez soi s'il le faut. Et ensuite, faire un maximum de relaxation, ça aide beaucoup à s'endormir.
Alors, c'est important tout ce que vous dites, Benjamin Lubczynski, parce que est-ce qu'on peut comparer ce long confinement, qui n'est pas fini, hein, qu'on a vécu à un stress post-traumatique ce que vous redoutez quand même, hein, les effets psychologiques à long terme?
Ben, on est certain qu'il y aura des effets psychologiques graves. Il y a eu des études bien faites sur le confinement pour H1N1, le SRAS, et aussi pour Covid-19 en Chine. Déjà, on sait que sur 21 jours, parce que ce n'était que 21 jours de confinement, il y avait davantage d'insomnie, d'anxiété, de dépression et aussi de stress post-traumatique, également des phobies et des crises d'angoisse. Et donc oui, on est en droit de craindre des stress post-traumatiques. On l'a vu, hein, 3 ans après ces épidémies, il y avait encore des gens qui n'osaient pas se mélanger à la foule, ouais, aller dans des endroits confinés, mmh, ils restaient avec cette inquiétude. Il faut voir que pendant ces semaines de confinement, on s'est conditionné. En plus, il y a un effet qui est assez mauvais, c'est qu'on ne s'est pas exposé à nos peurs. Plus on évite des peurs, plus les peurs augmentent. Donc en restant chez soi, ce qui est une bonne chose d'un point de vue médical, c'est certain qu'il y aura de l'hypocondrie, des phobies sociales, post-traumatique.
Phobie sociale, c'est-à-dire que vous vous dites quoi, c'est la peur de l'autre, la méfiance de l'autre, encore plus plus impacté encore, hein, donc
se méfier de cette peur-là. L'autre potentiellement dangereux. On nous apprend à l'éviter à 1 ou 2 mètres, à le regarder comme une possibilité potentielle d'infection. Donc oui, c'est évident que les phobies de ce type vont se déplacer, vont se mettre en place. En fait, les phobies, elles se développent sur une base de stress. Il y a beaucoup plus de stress actuellement et aussi en fonction de ce qui est dans l'air du temps. Donc, qu'on ait beaucoup plus de peur sur la maladie ou des peurs de l'autre, c'est tout à fait normal. D'autant plus quand on n'affronte pas ses peurs au jour le jour. Quant au stress post-traumatique, on s'imagine souvent que ça arrive après une agression, un événement grave, un traumatisme très, très fort, et c'est souvent le cas. Mais ça peut être aussi sur le long terme. On se conditionne progressivement à être stressé par tout ce qui tourne autour du corona et il y aura forcément des stress post-traumatiques. On l'a déjà vu sur 21 jours, donc vous imaginez sur plusieurs semaines.
Ouais. Hein. Jean-Marie.
Mais alors du coup, Benjamin Lubczynski, comment on fait pour éviter cette espèce d'effet boomerang à la sortie du déconfinement? Faut qu'on essaye de se confronter nous-mêmes à nos propres peurs malgré le confinement?
Je pense que il y a plusieurs clés. Déjà, c'est un petit peu tard pour le dire, mais il faut être extrêmement actif. On est mal équipé pour l'oisiveté, pour regarder que des écrans toute la journée. Mmh. C'est sympa, mais on peut pas faire que ça. Et on voit dans des situations proches, comme les gens qui partent à la retraite, qui sont malades, par exemple, en prison, pourquoi pas. On voit qu'on a une augmentation du stress, mais qui peut être limitée par une bonne routine. C'est-à-dire, si on est actif 8 heures par jour, c'est très bien pour limiter l'effet du stress. Et la deuxième chose, le confinement, en gros, il y a une clé, ça va créer beaucoup plus de stress. Et tous les problèmes dont on a parlé sont liés au stress. Donc, pour combattre le stress, il suffit de faire de la relaxation. Sur ma chaîne, par exemple, il y a beaucoup d'hypnose,
YouTube,
de méditation.
Oui,
la chaîne YouTube, pardon.
Ouais, oui. Vous avez plus de 230 000 followers, j'ai vu.
Oui, plus d'1 100 000 vues par mois maintenant.
Ah ouais, ça a augmenté, j'imagine, durant le confinement en plus.
Ça a un petit peu augmenté, mais c'était déjà assez important avant, et parce que ça correspond à une nécessité. La relaxation, ça permet en fait de limiter le stress de deux manières. Ça renforce le frein à stress, qu'on appelle le système parasympathique, et ça permet de s'habituer au stress. Donc, pour le déconfinement, ce que je conseille, c'est de faire un maximum de relaxation tous les jours et juste après la relaxation, de commencer progressivement à s'exposer si on a développé des peurs et en fait de faire soi-même sa thérapie comportementale. C'est comme ça qu'on se défait des peurs, c'est on s'y expose prudemment évidemment et on s'y expose en étant relaxé, ça crée de la désensibilisation. Tout le monde peut le faire.
Il paraît qu'aujourd'hui à Paris, il y a déjà 6 mois d'attente chez les psys. Est-ce que le système de santé psychologique pourra répondre à tous ces besoins?
Oh, clairement pas.
Ouais, c'est ça.
Clairement
aussi,
pas, il va être saturé, c'est évident. Surtout que les psychiatres, il y a une file d'attente telle, c'est parce que, alors d'abord, les problèmes courants ont augmenté sur les 30 dernières années, les dépressions, les problèmes liés à l'anxiété. mais aussi parce que ce sont les seuls à être gratuits avec les psychologues dans les CMP. Et donc, en fait, ils sont le... On n'y pense pas beaucoup, mais c'est le dernier filet de sécurité avant des problèmes encore plus graves. C'est les psychiatres, il faut les imaginer, comme les services d'urgence. Et ils traduisent quelque chose de la société. Moi, je dis toujours, les psys, ce sont des anticorps. Bon, c'est très bien d'avoir des anticorps, c'est nécessaire. Mais quand vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anticorps, ça veut dire que la société, le pays dans lequel vous êtes, ne va pas très bien. Ouais. Et effectivement, il y a 6 mois d'attente pour les psychiatres. Et à la fin du confinement, c'est évident que ça va augmenter. Alors peut-être qu'il y aura un décalage parce qu'il faudra oser aller voir un psychiatre ou des gens le feront de plus en plus en téléconsultation. Ça, c'est vraiment une évolution intéressante. Mais c'est évident qu'on va être saturé malheureusement et que la consommation de médicaments qui est déjà très forte, et les psychotropes en France c'est comme 3 millions de personnes, on peut être sûr que ça va augmenter à la fin, ne serait-ce aussi que parce que les gens qui avaient des soucis courants, dépression, anxiété, troubles anxieux généralisés, phobie ou des crises d'angoisse, avec le stress du confinement, leurs problèmes ont augmenté en intensité. Donc on est en droit d'attendre malheureusement aussi une augmentation des médicaments.
Un dernier mot peut-être Jean-Marie ou
Oui, alors une question, il y a toujours des moutons noirs dans un troupeau, alors pour leur bonheur dans ce cas-là, est-ce qu'il y a des gens, Benjamin Lubzinski, à qui le confinement a fait du bien, qui étaient beaucoup plus adaptés au confinement qu'à la vie en société?
Vous pensez à vous là Jean-Marie?
pas nécessairement, moi je suis en société, je suis avec vous, je vous rappelle.
Oui, c'est vrai.
Oui, c'est pour vraiment avoir une touche positive à la
oui,
fin.
Oui, quand même, c'est vrai.
Il y avait les gens qui étaient à la limite du burn-out ou qui étaient en burn-out, ça leur a fait du bien de ne pas être exposés au travail. Vous avez les gens qui ne s'autorisaient pas à dormir 8 heures et qui ont pu dormir 8 heures parce qu'ils ont fait des grasses matinées. Donc, c'est pas l'idéal, mais c'est mieux que de ne pas avoir ces 8 heures de sommeil. Vous avez les gens aussi qui étaient un petit peu timides, phobiques, sociaux, qui étaient mal à l'aise en société. Pour eux, ça a été un refuge agréable. Vous avez aussi les gens qui ont des tocs de nettoyage, par exemple, qui ont enfin dit, bah, voilà, je me lave les mains 10 fois par jour, mais tout
comme
le monde devrait le faire,
oui, c'est
pas un problème. Je le savais, c'est la
et
société qui a un problème.
Ah oui, j'avais pas pensé à ça.
Et voilà, oui, évidemment, il y a toujours des gens à qui ça fait du bien, mais il faut pas trop croire les gens qui disent, le confinement, je le vis vraiment très, 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 très bien, c'est des vacances, j'attendais ça depuis tout le temps,
oui,
je me retrouve avec moi-même, c'est génial. Plus souvent, c'est quand même une source d'anxiété, donc faut se méfier de la publicité.
Une source de solitude, oui.
Et je rappelle votre livre aux éditions du Rocher, Bien dormir, ça s'apprend. Merci beaucoup, Benjamin Lubzinski, pour toutes vos lumières. Merci.
Belle journée.
Allez, à suivre dans nos témoins experts Sud Radio. Xavier Louis, directeur général des Détours de France, pour voyager dans nos têtes. Ça aussi, c'est bon pour le moral.
Ah oui.
Hein ? Bonjour Xavier Louis.
Bonjour.
Vous êtes bien connu sur Sud Radio, directeur général des Détours de France. Alors qu'on rêve tous de partir durant les ponts là, du mois de mai qui vont arriver encore plus, de l'ascension et surtout cet été, comment se projeter, s'imaginer ailleurs tout en restant à 100 km de chez soi? C'est un gros boulot là, enfin nous faire rêver là, Xavier Louis.
Oui, vous savez que la particularité de nos plus beaux détours de France, c'est d'être donc des petites villes de 2000 à 20 000 habitants qui offrent tout ce qu'on a envie de découvrir quand on se déplace. Ça peut être des vieilles pierres, un marché sympathique, ça c'est très important, les marchés, et la plupart sont toujours ouverts et puis ils rouvriront pour ceux qui seraient fermés. Ce sont des métiers d'art, des artisans qu'on peut découvrir, c'est évidemment de la gastronomie, et là on espère très vite la réouverture des restaurants, mais il y a toujours des centres-villes avec des boutiques où on trouve plein de bonnes choses. Ça peut être aussi des découvertes insolites, des musées, des châteaux, de belles églises. Voilà, c'est tout cela. Et l'avantage de ce réseau, c'est qu'il y a donc 106 plus beaux détours de France. Et il y en a toujours à proximité de chez vous, donc dans cette fameuse distance des 100 km. On trouve toujours, j'allais dire, chaussures à son pied et plus beaux détours correspondant à ses envies.
Jean-Marie.
Et oui, tout à fait. Délégué général des plus beaux détours de France. On a eu une déclaration du secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne ce matin qui nous dit « Les vacances, ça dépendra des efforts des Français ». On ne nous avait pas parlé comme ça depuis l'époque où on était à l'école et que nos parents nous demandaient de faire nos devoirs. Est-ce que vous vous attendez à ce que les Français aient le droit de partir, même pas très loin de chez eux, ou est-ce que c'est compliqué ?
Non, c'est pas compliqué. Ce que je disais, par exemple, à partir déjà du 11 mai, il est tout à fait possible, prenons le cas des Parisiens, vous avez une ville comme L'Isle-Adam qui est à 30 km, Moret-sur-Loing, Provins, tout ça est à moins de 200 km du centre de la capitale. C'est déjà des villes tout à fait intéressantes à découvrir. Et je vous dis, si vous regardez la carte, vous allez sur le site plusbeaudestours.com, vous allez trouver toujours une ville, puisqu'il y a donc 72 départements représentés, vous avez toujours une ville à proximité de là où vous êtes, qu'il est intéressant de découvrir ou de redécouvrir. Et je vous dis, évidemment, ce sera plus sympathique quand tous les restaurants pourront rouvrir, évidemment. Mais en attendant, il y a toujours à se balader dans ces villes. Ce sont souvent, j'ai envie de dire, des musées à ciel ouvert pour beaucoup d'entre elles. Il y a un marché hebdomadaire, et là, vous trouverez aussi sur le site la date du marché, qui est, à mon avis, toujours un moment extrêmement sympathique à vivre. Oui. Je vous le rappelle et je vous le dis, le guide, le fameux guide qui est fait avec l'expertise de Michelin, ce guide qui est un guide gratuit, qu'on trouve dans les offices de tourisme de ces villes, sera disponible, on doit pouvoir le livrer dans 15 jours. Donc il sera disponible.
Ça tombe à pic, moment du déconfinement progressif.
Toute petite question, Xavier Louis.
Est-ce que pour tout le monde, mais on s'adapte.
Dernière petite question, Jean-Marie.
Est-ce que les Français, en général, connaissent bien le patrimoine qui est juste à côté de chez eux? On a l'habitude de voyager loin, mais est-ce que ce qui est à côté de chez nous,
on connaît? C'est une très bonne réflexion. On s'est rendu compte, et moi je me bats beaucoup pour ce tourisme de proximité. Vous savez, d'une époque, j'étais maire adjoint de la ville de Sarlat, par exemple. En Sarlat, je me suis dit, Sarlat, c'est déjà très connu nationalement. Internationalement. Et je me suis rendu compte que, par exemple, les habitants de Périgueux, qui est la ville chef-lieu de ce même département de la Dordogne, qui n'avaient une bonne proportion, et y compris des personnes relativement âgées, qui n'avaient jamais mis les pieds à Sarlat. Donc déjà, faisons en sorte qu'on connaisse dans son département les jolies villes, celles qui méritent effectivement un détour, c'est déjà une première, un premier objectif dans le déconfinement.
Ouais, voilà, c'est un joli mot de fin. Merci Xavier Houlouis. Je rappelle que vous êtes délégué, et non pas directeur, délégué général des Détours de France. Merci, ça nous a donné
bonne journée à vous, en tout cas.
Plein de cartes postales dans la tête. Allez, à suivre dans quelques instants notre rendez-vous, le Covid vu de l'étranger, pour voir comment on vit cette épidémie ailleurs dans le monde et le déconfinement ici. Et tout à l'heure, on prendra la direction de la Pologne avec vous, Jean-Marie. À tout à l'heure.